La reprise ce midi du magazine Transparence pour le premier numéro de l'année 2026. Elisabeth Noir recevait tout à l'heure le député Emmanuel Chibaouré, élu président de l'Union calédonienne le week-end dernier. Les élus du Congrès se sont retrouvés pour une courte séance ce matin, boulevard Vauban. Il s'agissait d'examiner la décision modificative numéro 4 du budget propre 2025 de la Calédonie. La préparation du déménagement des activités d'Aircal de Magenta vers Tontouta approche. Le gouvernement annonce la mise en place dès lundi prochain d'un service de navette entre Nouméa et Tontouta. La foi Farino Saraméa, moins doux engagé dans un contrat intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Un partenariat a été signé ce matin. Et puis le tennis, c'est les demi-finales messieurs de l'Open d'Australie. En ce moment, Carlos Alcaraz rencontre Alexander Zverev. L'Espagnol mène 2-7-0 sur l'Allemand. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. L'Union calédonienne rejette l'accord complémentaire Élysée-Oudinot comme elle a rejeté Bougival. C'est ce que confirme la motion politique adoptée par le 56e congrès qui était réuni le week-end dernier à Marais et qui a été rendue publique aujourd'hui. Réélu à la présidence de l'UC lors de ce congrès, Emmanuel Chibaou était, Jean-François Bodin, ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence.
Oui, un magazine qui d'ailleurs faisait sa rentrée après quelques semaines d'interruption. Le président de l'Union calédonienne a d'abord été interrogé sur ce 56e congrès et sur sa réélection. Il souligne le caractère démocratique de l'UC et conteste être l'otage de la CCAT.
Je pense que ça serait un peu prétentieux de dire que les groupes de pression à l'intérieur, ça serait l'apanage d'un comité local ou d'une région. Je pense qu'aujourd'hui, la CCAT a un rôle important dans la mobilisation, de même que la JKM, qui est le mouvement des jeunes, et puis qui partage aussi c'est un outil de revendication qui a été reconnu aussi par le mouvement de libération FLNKS. Je pense que le vrai appui aujourd'hui, c'est la mobilisation qui est une mobilisation politique d'abord. Donc on entend beaucoup ça et là des paroles sur une radicalité qui s'exprimerait de la part du président de l'Union calédonienne et qui aurait changé par rapport aux législatives, etc. Moi, j'ai jamais changé de discours.
Dans son discours d'ouverture, le président de l'UC avait surpris par son ton très offensif, affirmant à plusieurs reprises que l'heure est à la lutte et que l'heure est au combat. Il s'en est expliqué.
Aujourd'hui, pourquoi j'ai fait cette déclaration en ouverture de congrès à Marais, c'est que la proposition qui est posée sur la table, elle ne correspond pas à nos aspirations. Et ce qu'on a fait valoir après Bougival, on a dit on était contre, parce qu'on nous a dit faites valoir vos éléments sur lesquels vous vous positionnez sur l'accord de Bougival, le projet d'accord. On a rejeté le projet. On nous convie à une séquence qui ne doit pas parler que de ça. Je redis encore, si l'État ne nous entend pas, eh ben, on continue à faire valoir les positions qui sont les nôtres, qui portent sur les réformes, qui portent sur la reconnaissance du droit à l'autodétermination, qui portent sur l'exercice des régaliens. Enfin, voilà.
Le FLNKS et l'Union calédonienne ont refusé l'invitation du président de la République pour participer aux discussions à Paris. Le président de l'UC estime que l'ordre du jour était inacceptable.
Nous, à l'intérieur du mouvement Union calédonienne, on était partant pour y aller. À partir du moment où la convocation nous convie uniquement à débattre de Bougival, enfin, faut être sérieux. Je veux dire, si on a cet ordre du jour-là, on a fait état publiquement, on a respecté nos engagements. Je le répète encore une fois. Ce qui nous a été dit le 12 juillet, c'était faire le retour aux structures. Si le retour des structures, c'est que cet accord en l'état, il ne nous convient pas, il faut le faire évoluer, ouvrir un second round de discussion. On n'a pas arrêté de dire ça. Je fais le parallèle avec ce qui a été dit à Deva. Deva, on a fait la même chose. On avait un projet de souveraineté partagée qui avait été validé par le FLNKS, l'UNI, Calédonie Ensemble, Éveil Océanien.
Mais il était signé par personne.
Oui, parce que nos camarades ont refusé de signer. Nous, ce qu'on a dit à ce moment-là, on aurait pu faire valoir une résolution au Congrès en disant bah, « Écoutez, la démocratie parle et le consensus s'éteint ». Ce n'est pas notre vision du débat démocratique, ce n'est pas ce qui a amené aux accords de stabilité de 88 et 98. C'est ce que je dis aujourd'hui. On n'a pas changé de direction et notre perspective, c'est celle de faire valoir le consensus.
L'UC rejette l'accord complémentaire Élysée-Oudinot et rien ne trouve grâce à ses yeux. Emmanuel Chibaou critique notamment les dispositions relatives aux droits et à l'autodétermination et au transfert des compétences régaliennes. Il considère qu'elles sont pires que ce qui était prévu dans Bougival.
On nous dit majorité des 5/8e, 36 sur 56. Après, une fois qu'on a, si jamais un jour, par miracle, on obtient cette majorité, l'État décide. Au moment de Bougival, c'était pouvant. Participer, on a dit ben, il faut mettre pourra et il faudrait devra, parce que si on a une majorité qualifiée, c'est mort, c'est nous qui avons le droit de réclamer ce qui nous revient. Là maintenant, il y a encore un verrou supplémentaire, c'est celui de dire les partenaires examinent la situation créée. Donc ça veut dire il faut aller chercher une majorité qualifiée qu'on n'a jamais réussi à obtenir. L'État peut décider de nous dire oui ou non. Les gars, vous êtes même en majorité qualifiée, c'est niet. Trois, le vote des Calédoniens est sanctionné. Et même après ça, il faut demander la permission pour pouvoir examiner les possibilités.
Dans ces conditions, l'UC s'opposera donc à l'accord complémentaire Élysée-Oudinot et d'abord en faisant du lobbying auprès des parlementaires.
Les militants, je pense, de tous les partis politiques, signataires, et même ceux qui n'ont pas signé, nous, UC, on a fait l'analyse. Et pour nous, ça ne nous emmène pas sur une trajectoire d'émancipation. Et il y a les instances, comme à Bougival l'année dernière, et puis là, comme après Élysée-Oudinot, feront valoir les retours auprès des structures qui décideront. Nous, on a fait notre congrès à Marais ce week-end, moi je viens pour parler au nom de l'UC. Nous, on a dit c'est pas possible, l'Élysée-Oudinot, et on s'y opposera, je pars la semaine prochaine, pour faire valoir les positions de l'Union calédonienne. Le bureau politique du FLNKS est réuni, nous, on continue sur notre trajectoire, on pousse la discussion, mais on s'opposera dans le débat parlementaire au Sénat et à l'Assemblée sur la mise en œuvre.
Il a été demandé à Emmanuel Tchibaou quelle serait la réaction de l'Union calédonienne si la réforme constitutionnelle était adoptée par le Parlement.
On réajustera nos stratégies. Déjà, il faut aller aux discussions pour faire valoir nos arguments au Sénat. Mais les options sont d'abord de suivre le chemin qui est celui institutionnel. Et puis après, les parlementaires se prononceront. Mais un écueil toutefois pour moi aujourd'hui, c'est on avait dit accord consensuel. Maintenant, on se dégage de la responsabilité en disant le Parlement doit décider. Mais c'est pas comme ça que les accords précédents ils ont été Ouais, ils se sont traduits politiquement par un accompagnement législatif. Mais ils ont d'abord fait valoir le consensus.
Un consensus qui, pour Emmanuel Tchibaou, est toujours possible. Il regrette toutefois que les provinciales soient encore repoussées, alors que selon lui, ce sont les élus issus d'un nouveau scrutin qui seraient légitimes pour négocier et trouver ce consensus. Des éléments que le président et le bureau de l'Union calédonienne ont de nouveau détaillés lors de la conférence de presse qui se tenait en début d'après-midi.
Une interview d'Emmanuel Tchibaou à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Elle sera par ailleurs rediffusée dans son intégralité dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Au chapitre politique encore, une Assemblée Générale du Palikia. Elle aura lieu demain à Puebo. L'UPM, de son côté, tiendra un comité central à Ponériouin. À l'ordre du jour, le budget de l'année 2026, le retour sur les décisions prises lors du congrès du parti en novembre dernier et faire un point concernant l'accord Élysée-Oudinot. Dans l'actualité institutionnelle, les élus du Congrès réunis ce matin en séance publique boulevard Vauban. Il s'agissait d'examiner, vous le savez, la décision modificative numéro 4 du budget propre de la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice 2025. Séance extrêmement technique et surtout extrêmement courte, puisque les élus sont restés en séance une petite dizaine de minutes seulement. Pas de débat, pas de prise de parole, si ce n'est un propos liminaire de Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment du budget. Peu d'élus dans l'hémicycle, pas de débat pour examiner un texte qui pourtant a été qualifié d'extrêmement important. Écoutez Christopher Gigès.
Ça évite à la Nouvelle-Calédonie d'être mise sous tutelle puisqu'il y a une règle qui est importante qui est que normalement les prêts ne peuvent pas financer du fonctionnement et donc en attente d'une décision qui sera pérenne dans le temps, on avait une décision provisoire à prendre, c'est ce texte, et qui nous permet aussi de travailler sereinement avec l'État sur la transformation des prêts en subventions. Donc un texte qui a été rapide parce qu'il a été bien préparé avec les élus du Congrès, mais un texte qui était nécessaire pour assurer le fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui le prêt est inscrit en investissement, il finance du fonctionnement et il faut qu'on puisse transférer une partie de l'investissement sur du fonctionnement, ce qui est une écriture purement comptable, mais qui est nécessaire si on veut respecter les règles juridiques de la Nouvelle-Calédonie.
Et le texte a finalement été adopté à la majorité des élus présents, 27 voix pour et 11 abstentions. La préparation du déménagement des activités d'Aircal de Magenta vers Tontouta approche. Le gouvernement annonce la mise en place dès lundi prochain d'un service de navette entre Nouméa et Tontouta, Jean-François.
Une offre conçue pour répondre aux attentes et aux préoccupations exprimées par les voyageurs des îles, indique le gouvernement, qui donne ensuite des informations pratiques. Ce service de navette sera assuré par Tontouta Express, qui met en place un programme de rotation qui permet de couvrir l'ensemble des vols domestiques d'Air Calédonie. Chaque navette effectuera 4 arrêts, le parking de l'ancien CHT à Nouméa, Koutio, l'arène du Sud à Païta et Tontouta, et le tarif est de 500 francs par trajet et par voyageur. Un déménagement qui continue de susciter des oppositions dans les îles. Les 11 élus UCFLN de la assemblées de province des îles viennent d'adresser un courrier au président du gouvernement dans lequel il souligne que ce projet est vécu par la population des îles comme un abandon, voire une fracture. Il lui demande d'opérer un moratoire et de proposer, je cite, des alternatives plus cohérentes, équilibrées et socialement acceptables dans l'intérêt de notre population. Notez que les élus palicanes n'ont pas signé ce courrier.
Il est 18h17h59, donc bientôt 18h. On va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, c'est la suite de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Bonne année avec Canal+. Et si 2026 vous offrait toutes les chaînes Canal+, à tarif canon pendant un an, en janvier, profitez de l'offre exceptionnelle à 3000 francs par mois au lieu de 8000 francs par mois pendant un an. À vous le cinéma ultra récent, F1, le film, Mission Impossible, The Final Reckoning ou encore les nouvelles saisons de Loup-Garou et BRI. Retrouvez aussi le meilleur du sport avec l'UEFA Champions League et 100% du top 14. Tout ça, c'est sur Canal+, à seulement 3000 francs par mois au lieu de 8000 francs par mois pendant un an. Faites-vous plaisir. Offre valable jusqu'au 31 janvier pour tout nouvel abonnement de 12 mois à Sélection Plus. Moins en cours offert, puis 3000 francs par mois au lieu de 8000 francs par mois pendant 12 mois. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com.
Chaque mardi à 11h et 15h, partez à la rencontre de ceux qui agissent pour protéger notre biodiversité. La rubrique Environnement donne la parole à des associations, des bénévoles, des scientifiques, des acteurs connus ou inconnus qui agissent pour protéger notre patrimoine naturel et exceptionnel. Une émission réalisée en partenariat avec la Province Sud.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Info Soir, Lionel Sabot.
C'est un document qui suscite beaucoup de réactions. La Commission nationale consultative des droits de l'homme s'est penchée sur la gestion des émeutes par l'État, un sujet dont elle s'est auto-saisie après un signalement du président du Sénat coutumier de l'époque, Ludovic Boulage, Jean-François Bodin.
Et ce rapport d'une quarantaine de pages étrille l'État. Les réponses des pouvoirs publics ont été essentiellement répressives, peut-on lire dans ce rapport, qui estime également l'usage de la force qu'elle qualifie d'excessif. La Commission s'en prend également à la province sud qui aurait, après le 13 mai 2024, affecté plus particulièrement les populations kanak. Un rapport qui comprend de nombreuses inexactitudes reprises sans vérification réagit de son côté la province sud dans un communiqué dans lequel elle indique qu'elle publie sur son site toutes les informations qui auraient permis de mener un travail complet s'il avait voulu être sérieux. De plus, rappelle la province, la collectivité s'est vue privée d'un quart de ses recettes fiscales en raison de ces violences qui ont détruit le tissu économique et de nombreux établissements publics. Ce sont bien ceux qui ont détruit notre territoire qui ont provoqué les difficultés que rencontre notre territoire et certainement pas ceux qui, au quotidien, continue d'agir pour l'éducation, la santé, la jeunesse, les infrastructures de qualité ou le développement, conclut ce communiqué de la province sud. Les loyalistes, toujours par communiqué, parlent de droits de l'homme à géométrie variable et soulignent de nombreux oublis et inexactitudes. La commission sort de son devoir de neutralité, rend coupable les victimes en niant leurs droits, tout en victimisant les auteurs des violences en passant sous silence l'ampleur et les conséquences de leurs exactions, écrivent les loyalistes. Enfin, l'association des citoyens mondoriens réagit également à ce rapport et parle d'un diagnostic incomplet et d'un déséquilibre préoccupant. Elle déplore notamment que la privation durable de la liberté de circuler, pourtant constitutive d'une liberté fondamentale, soit largement minimisée, voire passée sous silence. L'association regrette également une approche qui tente à hiérarchiser implicitement les droits et les souffrances, au détriment de celles subies par les citoyens confrontés à l'insécurité, au bouclage ou encore à l'impossibilité de mener une vie normale sur une longue durée.
Plus de sécurité, plus de prévention sur le territoire, c'est l'objectif du contrat intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance qui a été signé ce matin à La Foy, Léana Colombo.
Il engage 4 communes, La Foy, Moindou, Saraméa et Farino, en partenariat avec les services de l'État, le gouvernement, la province sud et le parquet. Le CISPD 2025-2028 permet de coordonner les moyens de ces différentes instances pour améliorer le cadre de vie des 4 communes. Il s'oriente autour de 3 axes, dont l'accompagnement à la jeunesse et aux familles avec des animations, des programmes de prévention et un soutien à la parentalité. Plusieurs actions sont aussi prévues pour améliorer la sécurité des personnes et des biens, notamment le développement de la vidéoprotection ou même la création d'un centre de supervision unique. Florence Roland, maire de La Foy.
Alors, c'est en accord total avec les problématiques qu'on a rencontrées ces dernières années. Aujourd'hui, on a quand même un CISPD qui remet le soutien aux familles et l'accompagnement au cœur du dispositif. Mais pas que. On a aussi l'amélioration de la sécurité au quotidien, la vidéoprotection, puisqu'on c'est un constat global sur ce territoire. On a une augmentation des atteintes aux biens, on a une augmentation des faits de délinquance. Et donc, c'est comment on arrive aussi, au-delà de cette jeunesse, à faire en sorte que nos administrés se sentent concernés, parce que la sécurité d'un village, la sécurité d'un territoire, c'est l'affaire de tous. Et ce CISPD permettra aussi de décliner des axes en cohérence avec la protection des personnes et des biens notamment.
Ce nouveau CISPD est le troisième, co-signé par les communes de La Foix, Farino, Moindou et Saraméa, et s'inscrit dans la continuité des précédents. Il prévoit également un développement du conseil municipal junior, du devoir de mémoire, tout cela dans le but de renforcer la citoyenneté.
Dans l'actualité de ce vendredi soir également, ce rendez-vous pour les passionnés des étoiles. Durant les prochaines 24 heures, étudiants, entrepreneurs, ingénieurs et passionnés vont relever le défi d'ActiSpace, un hackathon dédié à l'innovation spatiale, Léana.
Et le principe, Lionel, en 24 heures, des équipes entre 2 et 5 personnes doivent imaginer un produit ou service innovant à partir de technologies spatiales ou de données satellites. Et pour cette édition 2026, plus de 50 villes issues de 30 pays participent à ce challenge international, dont pour la première fois la Nouvelle-Calédonie. Le top départ a été donné à 15 heures à la FOL, l'occasion de prouver que le territoire peut rayonner dans le Pacifique, dans le domaine du spatial, explique Petelo Sao, membre du gouvernement chargé de l'innovation technologique.
C'est une belle avancée parce que ça montre que notre territoire, il est connecté au reste du monde. C'est important aujourd'hui, on parle beaucoup d'attractivité. Là, on est connecté avec un phénomène mondial dans lequel 30 pays sont participants. On peut penser que c'est un secteur qui est très loin de nous puisqu'on n'a pas de centre de construction de fusées, mais c'est pas là l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment de faire une acculturation autour du domaine du spatial, de montrer que justement, du fait de notre insularité, on doit développer ce type de connectivité qui permet de relier finalement les différents territoires et pourquoi pas d'être leader dans la matière, notamment dans le Pacifique. Donc c'est important de les soutenir et de les valoriser.
27 thématiques étaient proposées cette année par l'Agence spatiale française et pour cette première participation, 19 Calédoniens répartis en 5 équipes vont développer l'idée qu'ils ont sélectionnée jusqu'à demain après-midi. Ils seront pour cela accompagnés d'experts par visioconférence. Amy Jourdain, 17 ans, participe avec sa mère. Elle constitue l'équipe Cosmic Queen qui semble déjà savoir quelle direction prendre pour l'avenir du projet.
On va travailler sur le CNES 11, et donc c'est un défi qui va connecter tous les satellites et montrer que le spatial est connecté finalement à la vie humaine. Nous, on va travailler sur la sécurité routière. Ça nous tenait à cœur de faire un projet qui pourrait aider à petite échelle et ça pourrait être très intéressant pour nous et pour tous les gens qu'on va rencontrer. Et faire partie d'ActiSpace, c'est assez intéressant parce que finalement, le spatial, c'est quelque chose qui est très nouveau en Calédonie et qu'on rencontre pas tous les jours. Donc dans tous les cas, même si c'est pas pour gagner, même si on n'a pas toutes les compétences nécessaires, ce sera pour rencontrer des gens, découvrir des choses. Dans tous les cas, on n'a rien à perdre et tout à gagner.
Et une aventure mère-fille, j'imagine que c'est quand même une bonne expérience.
Ça va être original et c'est un peu là une première. Parce que c'est vrai que même à la maison, des fois, ça peut être difficile. Donc là, ça va être 24 heures enfermées toutes les deux ensemble. On a le papa aussi qui va venir en visio de temps en temps, donc c'est complètement familial. On verra bien ce que ça donne, hein. On verra plus tard. Mais pour l'instant, on est optimiste.
Les participants auront droit demain à un atelier coaching sur les prises de parole et une initiation à l'ORFA, une technique militaire de gestion du stress dispensée par l'armée de l'air. L'événement ActiSpace prendra ensuite fin à 15h et nous connaîtrons les lauréats qui représenteront la Nouvelle-Calédonie lors de la finale France et ce sera à Bordeaux le 1er avril prochain.
Radio Rythme Bleu, opinion.
La réponse à la question d'hier, 56% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que dans cette période de crise économique et sociale, ce n'est pas le bon moment pour les syndicats de mettre la pression sur les élus. Ils sont 44% à penser à l'inverse que c'est le bon moment. Voici notre question du jour. Approuvez-vous la décision du Sénat de rejeter la proposition de loi sur l'aide à mourir et de refuser notamment toute forme de suicide assisté et d'euthanasie? Si vous approuvez cette décision, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 3146. L'agenda culturel sera éclectique ce week-end avec un week-end découverte à la tribu de Grand Borindi, le premier vide-grenier de la ville de Nouméa, ce sera dimanche, ou encore la ville de Dumbéa qui accueillera un spectacle de danse, Léana Colombo.
Effectivement, la ville de Dumbéa organise de nombreuses animations 100% gratuites dans le cadre du dispositif national Un été culturel. Et donc demain, c'est le spectacle de danse Echo of Us de la Divine Dance Company qui sera proposé à 17h au Big Up Spot du Parc. parc de Coutio.
Direction la commune de Thio qui organise à partir de demain un week-end découverte.
Les visiteurs seront attendus demain et dimanche à la tribu de Grand Borindi. Différentes activités seront au programme, notamment excursion en bateau, balade pédestre, initiation au tressage et un atelier culinaire avec possibilité de camper sur place. Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 44 25 04 44 25 04 ou le 92 96 32 92 96 32.
Et pour terminer, Léana, la ville de Nouméa qui proposera ce dimanche 1er février son premier grand vide-grenier place des Cocotiers.
Plus de 250 stands seront installés de 8h à midi du kiosque à musique jusqu'en bas de la place de la Paix. Les précisions d'Edwige Cani, chef de projet culturel pour la ville de Nouméa.
On reprend nos vides-greniers pour la saison 2026. Donc notre premier vide-grenier est complet. Nous avons 253 stands. Notre billetterie qui s'est ouverte le 21 janvier en moins d'une heure. Nous avons rempli les 253 stands.
C'est la rentrée scolaire, ce sera l'occasion de faire le plein au niveau de tout ce qui est tenue vestimentaire pour les petits comme pour les grands.
Oui, très souvent, le premier vide-grenier est très sollicité justement pour cette rentrée, aussi bien pour habiller les petits, les grands, même pour les chaussures, les pantalons, pour la rentrée. Et on peut avoir potentiellement des fournitures scolaires comme des cartables, des sacs à dos, ou les chapeaux, des casquettes, des vêtements de sport aussi pour cette rentrée. Donc le premier vide-grenier de l'année est toujours très sollicité pour ça.
Et notez donc ce rendez-vous, le premier vide-grenier de la ville de Nouméa, c'est de 8h à midi, le dimanche 1er février, place des Cocotiers.
Il est 18h10, on va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité dans la région Pacifique, le sport et la météo.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La ville de Nouméa recrute des sapeurs-pompiers volontaires.
Si vous souhaitez travailler au centre de traitement de l'alerte situé à Normandie, vous avez jusqu'au 16 janvier pour postuler.
Et si vous préférez exercer dans un des deux centres de secours, vous pouvez candidater jusqu'au 6 février. Toutes les infos, conditions, phases de recrutement et dossiers de candidature sont disponibles sur le site de la ville www.nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 24 38 18.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Lionel Sabot.
Et l'actualité dans la région Pacifique avec trois personnes interpellées en Australie, l'une à l'aéroport de Sydney, les deux autres à celui de Brisbane. Et dans les deux cas, les voyageurs transportaient de la drogue. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
Lors d'une première intervention, les agents de la police aux frontières ont contrôlé une femme de 32 ans qui venait d'arriver à Sydney sur un vol en provenance d'Afrique du Sud. L'inspection de ses bagages a abouti à la découverte de 40 kilos de méthamphétamine ou ice d'une valeur à la revente estimée à 2 milliards 600 millions de nos francs. La seconde affaire a eu pour cadre l'aéroport de Brisbane. Deux voyageurs âgés de 25 et 27 ans y ont fait l'objet d'un contrôle inopiné de la police aux frontières après avoir débarqué d'un vol en provenance de Chine. La fouille de leurs bagages a permis d'y découvrir 65 kilos d'héroïne d'une valeur à la revente estimée à 2 milliards 250 millions de nos francs. Dans les deux cas, les agents de la police aux frontières ont alerté leurs collègues de la fédérale qui ont inculpé les trois personnes pour trafic de stupéfiants, un crime passible de la prison à vie. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Avant de passer à la météo, ouvrons l'agenda sport de votre week-end en Calédonie, en métropole et dans le monde. Avec du tennis pour commencer, on va suivre demain la finale dames de l'Open d'Australie. Ce sera à partir de 19h30. La numéro 1 mondiale, la Bélarusse Sabalenka, sera opposée à la Kazakh Rybakina. Chez les messieurs, la première demi-finale oppose en ce moment même le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz au numéro 3 mondial Alexander Zverev. Les les deux hommes. Carlos Alcaraz, pardon, mène 2-7-1. Il a remporté la première manche 6-4, la deuxième 7-6. Zverev est revenu dans le match en remportant la troisième manche 7-6. Et les deux hommes sont donc dans la quatrième manche et ils sont à égalité parfaite de jeu partout. La seconde demi-finale opposera tout à l'heure, après ce premier match entre Alcaraz et Zverev, Novak Djokovic à Yannick Sinner. La finale, messieurs, sera à suivre dimanche à 19h30. En football, on jouera la 20e journée de Ligue 1 à 6h45. Demain, le deuxième du championnat de France, Lens, recevra Le Havre. Dimanche matin, Marseille se déplacera sur la pelouse du Paris FC. Lorient accueillera Nantes dans une confrontation entre clubs de l'Ouest. Et Rennes se rendra en principauté pour affronter l'AS Monaco. Enfin, dans la nuit de dimanche à lundi, un choc entre Lyon et Lille. Dans le ventre mou du classement, Nice recevra Brest. Dans les duels de mal classé, on suivra Toulouse-Auxerre et Angers-Metz. Et puis en clôture, le leader, le Paris Saint-Germain, se déplacera à Strasbourg. En rugby, à moins d'une semaine de l'ouverture du tournoi des Six Nations, à suivre ce week-end la 16e journée du top 14, le championnat de France élite. Dimanche matin, le leader Toulouse recevra Bayonne. Le Stade français sera en déplacement à Montpellier. On suivra aussi un duel entre Castres et Clermont, tandis que le Racing 92 recevra Perpignan et que La Rochelle accueillera Lyon. L'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, sera à Montauban. En clôture, lundi, Pau, le deuxième du classement, recevra à Toulon. Les sports d'hiver également, avec la Coupe du Monde de ski alpin qui fait escale en Suisse sur les pistes de Grand Montana, tandis que le championnat d'Europe de biathlon se poursuit en Norvège. Lundi matin, au chapitre cyclisme, Mathieu Van Der Poel pourrait inscrire son nom dans l'histoire du cyclocross en devenant le coureur le plus titré des championnats du monde. Le Belge ultra favori aux Pays-Bas vise un 8e sacre mondial. Et puis quelques mots de sport en Calédonie, deux rendez-vous à noter sur vos agendas sport. Du tennis samedi et dimanche sur les courts de la Ligue au Wentoro avec le tournoi à multichance Broussard. À suivre également la première journée de foot golf de la saison. On termine ce journal avec la météo.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, l'Unicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Et les couleurs du ciel, c'est avec Pierre.
Yes, cette nuit sur le nord-ouest, quelques averses résiduelles persisteront en début de nuit avant de s'évacuer. En fin de nuit, une ou deux ondées resteront possibles sur la pointe nord. Ailleurs, la nuit sera largement étoilée. Le vent deviendra faible et variable sur la majeure partie du territoire. Seule la pointe nord conservera un flux de nord à nord-est entre 5 et 10 nœuds. Les températures minimales évolueront entre 19 et 25 degrés de l'intérieur des terres jusqu'au littoral. Demain matin, le soleil s'imposera largement sur l'ensemble du territoire. Seule la pointe nord et Belep pourront être concernés par une ondée isolée. En fin de matinée, de faibles brises locales se mettront en place, tandis que le vent restera très discret sur l'extrême sud, le sud-est et les Loyautés. Côté mer, pour nos amis les pêcheurs, la marée sera basse aux alentours de minuit cette nuit. Elle remontera progressivement pour atteindre une pleine mer demain matin vers 7h13 avant de redescendre en début d'après-midi autour de 13h30. Et côté ciel, la lune sera très lumineuse cette nuit avec 92% d'éclaircissement, offrant un superbe clair de lune idéal pour les amoureux et les noctambules.
Ouais, près de la pleine lune, c'est quand même pas la meilleure saison pour